Et la deuxième mi-temps des midis commence à 13h. Vous entendrez Margaret Atwood que j'ai rencontrée à l'occasion de la sortie de ses mémoires. Mais tout de suite, c'est le point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Le plan culture et ruralité 2024-2027, doté de 98 millions d'euros, est l'un des piliers de la politique de Rachida Dati au ministère de la Culture. Il comprend 23 mesures et parmi elles, le déploiement des artothèques partout sur le territoire. Alors les artothèques, ce sont des bibliothèques où l'on emprunte non pas des livres, mais des œuvres d'art. Alors le choix est très large, hein. Vous pouvez cohabiter avec une lithographie de Soulages ou avec une photographie contemporaine de Charles Frégé par exemple. Pendant 2 mois, l'idée c'est de permettre à tous et en dehors des institutions de tisser un rapport intime, contemplatif avec une œuvre d'art. Le déploiement des artothèques en ruralité, c'est le dossier du Point Culture du jour. Isabelle Tessier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directrice de l'artothèque de Vitré et coprésidente de l'ADRA, l'Association de Développement et de Recherche sur les Artothèques. Alors la ministre de la Culture, Rachida Dati, poursuit son plan culture et ruralité et l'une des mesures phares concerne justement les artothèques. L'idée est de renforcer la présence des artothèques en milieu rural et tout a commencé par un appel à manifestation d'intérêt.
Oui, exactement. C'est un appel à manifestation d'intérêt qui a pris corps cette année et qui a permis à un certain nombre de porteurs de projets de répondre à cet appel. Donc c'est un plan qui a été lancé par le Centre national des arts plastiques qui a une grande implication et dont l'énergie et l'expertise ont été vraiment décisives dans la construction et la mise en œuvre de ce programme. Il y a également de la part du Centre national des arts plastiques un accompagnement sur 1 an qui est proposé aux porteurs de projets. Donc c'est une qualité vraiment remarquable et essentielle pour consolider cette initiative. Et ce lien avec le Centre national des arts plastiques n'est pas nouveau pour l'Association de développement et de recherche sur les artothèques, puisqu'il se construit dans la durée. On travaille ensemble depuis 2017 avec des collaborations qui se sont mises en place autour de commandes publiques majeures, telles que Quotidien, Emanata, Les Temps Changent ou encore Messages, Images, Graphismes d'intérêt général. Ce sont vraiment des commandes publiques qui permettent aux artothèques de bénéficier de 12 œuvres pour chaque commande et de les diffuser dans leur établissement et bien évidemment auprès de tous les publics.
Vous faites bien de rappeler le rôle du CNAP puisqu'il a été étrié il y a quelques jours par un rapport de la Cour des comptes qui demandait même sa suppression. On se demande parfois à quoi sert le CNAP. Et voilà, vous venez de donner quelques exemples. Pour vous, pour les artothèques, le CNAP est un maillon essentiel.
Oui, c'est un maillon vraiment essentiel, nécessaire au soutien des artistes, de toute la profession, bien évidemment. Donc ça passe par, effectivement, ces commandes publiques, des appels à résidence. C'est un maillage fort pour le territoire national, en fait. C'est un lieu unique, essentiel pour notre territoire.
Alors, je reviens au plan culture et ruralité. Après cet appel à manifestation d'intérêt, vous avez choisi une 50aine de lieux pour accueillir ce principe d'artothèque en ruralité.
Voilà, exactement. Donc, c'est une 50aine de porteurs de projets. Dans ces 50, il y a 14 artothèques qui font partie du réseau de notre association, l'ADRA. Donc nous nous réjouissons, c'est-à-dire que toutes les artothèques qui font partie de ce réseau et qui ont souhaité postuler pour ce plan ruralité ont été lauréates. Et nous avons intégré justement dans ce réseau 2 nouvelles artothèques qui ont été lauréates en même temps qu'on les accueillait. C'est une très belle réussite pour ce réseau. C'est un maillage fort également pour le territoire puisque, que ce soit en métropole ou dans les territoires d'outre-mer, tout le territoire national va pouvoir bénéficier d'une artothèque.
Alors, dans ces 50 porteurs de projets, il y en a aussi un certain nombre qui ont choisi l'itinérance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un lieu avec des œuvres à l'intérieur que le public peut emprunter pour mettre chez soi, puisque c'est ça le principe d'une artothèque. Mais il y a aussi des porteurs de projets qui vont se promener dans le territoire avec des œuvres avec eux.
Oui, exactement. En fait, elles s'appuieront à chaque fois sur des artothèques existantes. Enfin, à chaque fois ou très souvent sur des artothèques existantes, mais il y aura une structure mobile qui a été dessinée par le Martial Marquet Studio, un designer, et qui permet d'accueillir des œuvres qui vont pouvoir aller dans différents équipements. Ça peut être des bibliothèques, ça peut être également des établissements scolaires, des centres socio-éducatifs. il y a cette possibilité justement de faire circuler ses œuvres dans même les petites mairies. L'idée, c'est vraiment que tous les publics puissent bénéficier de cette confrontation d'œuvres d'art contemporain.
Quels sont les moyens alloués par le ministère de la Culture sur ce plan ? On a lu 4 millions, on lit parfois 3 millions. Est-ce que ce soit 4 ou 3 millions, est-ce que c'est suffisant pour faire vivre ces 50 lieux, ces 50 artothèques en ruralité ?
Alors, c'est un investissement en fait. Donc bien évidemment, je pourrais vous dire que c'est déjà une chance incroyable, énorme de pouvoir bénéficier de cette enveloppe. Pour ces structures hein, qui, généralement, ont très peu de moyens, fonctionnent seulement avec 2 ou 3 personnes. La force, en fait, des artothèques, c'est d'avoir un investissement humain et professionnel qui accompagne les œuvres au plus près des publics. Ça, c'est quelque chose que je veux rappeler, bien évidemment. Il y a des équipes de proximité et un accompagnement humain fort pour assurer une médiation de qualité avec un impact réel auprès des publics variés. Donc, cette enveloppe est importante. Donc, en termes d'investissement pour acquérir des œuvres, des encadrements pour les faire circuler, la structure mobile. Mais effectivement, on aurait pu attendre aussi des financements qui soient plus de l'ordre du fonctionnement.
Vous parliez d'un accompagnement, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément évident pour des publics qui sont parfois éloignés des musées ou en tout cas des centres de la culture de faire la démarche, d'aller dans une artothèque, de choisir une œuvre et après de vivre en fait dans son foyer en compagnie de l'œuvre pendant plusieurs semaines. Ça nécessite en fait une médiation de la part des équipes des artothèques, accompagner le public pour choisir son œuvre.
Exactement. Oui, et vous avez tout à fait raison. On a fait une étude, justement, il y a quelques années avec Dominique Sagot-Duvourou, qui a un laboratoire de recherche à l'Université d'Angers et qui a mis en évidence le profil des emprunteurs. Ça, c'est généralement la classe moyenne qui emprunte. Mais nous, notre but, c'est justement de pouvoir aller aussi au-devant des publics. Je pense là plus particulièrement aux établissements scolaires, aux centres socio-éducatifs, aux maisons de retraite. Et c'est là toute la force justement des artothèques d'avoir une équipe de médiation et de sortir aussi de son lieu pour aller voir ses publics et faire en sorte que les œuvres puissent être empruntées, peut-être pas à chaque fois par des particuliers, mais par des établissements. Et ces emprunts vont permettre aux personnes de vivre au quotidien avec ces œuvres. Dans ces foyers, enfin ces foyers de vie, ces établissements scolaires. Après, nous avons effectivement des emprunteurs particuliers qui peuvent faire la démarche de venir emprunter. Ce sont des, en fait, les artothèques, ce sont des structures qui sont les seules sur le territoire à pouvoir prêter leur collection à tous les publics. Et ça, c'est la grande richesse de nos structures.
Bien, merci beaucoup Isabelle Tessier, on guettera la suite de ce projet artothèque en ruralité avec attention. Merci beaucoup.
De rien, avec plaisir, au revoir.
Dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, Séverine Chavrier vient d'être mise à l'écart d'une partie de ses fonctions à la Comédie de Genève.
Oui, la metteuse en scène franco-suisse vient de perdre la responsabilité financière, administrative et technique de l'institution genevoise qu'elle dirige depuis 2023. Elle garde la direction artistique pour la programmation de la saison 26-27, tout en ayant l'obligation de travailler à distance pour ne pas être en contact direct avec les équipes du théâtre le temps qu'un audit interne soit réalisé. Pour rappel, Séverine Chavrier a été accusée fin octobre par 2 enquêtes parues dans des médias, d'exercer un management brutal à l'encontre du personnel du théâtre et surtout de ne pas mettre en valeur la scène théâtrale suisse.
Au Conseil de Paris, la droite a bloqué une aide de 500 000 euros destinée à une quarantaine de librairies indépendantes.
Oui, pour tenter de comprendre cette décision, il faut remonter à une polémique débutée en août dernier. La librairie féministe Violette & Co. avait en effet mis en vitrine un album de coloriage intitulé « From the River to the Sea ». C'est un slogan de soutien à la création d'un État palestinien. La librairie avait reçu par la suite des visites d'intimidation et avait vu sa vitrine taguée. Depuis, 3 autres librairies parisiennes ont également reçu des menaces. Et c'est dans ce contexte tendu que des groupes d'élus de droite ont décidé de rejeter la subvention d'un demi-million d'euros qui devait financer divers aménagements de 40 librairies indépendantes parisiennes. L'association Paris Librairie a publié avant-hier un communiqué dans lequel elle déclare « Au lieu de condamner fermement ces agissements contraires à l'article 1er de la loi sur la liberté de la presse et contraires à l'ordre républicain, ce vote manifeste une dérive politique inquiétante. »
Et pour finir, Marie, la 43e édition de l'Équerre d'Argent, prestigieuse récompense d'architecture, a été décernée hier.
C'est l'agence Gaëtan Le Pénuel et Associés qui a remporté ce prix pour son groupe scolaire Simone Veil à Tremblay en France. Ce projet a été salué pour avoir mutualisé les espaces de l'école avec ceux du centre de loisirs, une manière d'agrandir les salles de classe. Au-delà de l'aspect fonctionnel, le choix des matériaux vertueux comme la pierre, le bois ou encore la terre crue, mais aussi le soin des finitions et le design léché de l'ensemble ont fini de convaincre le jury. Cette récompense s'inscrit dans un contexte de promotion ces dernières années d'une architecture plus humble, en rupture avec la célébration des stars architectes.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h, vous êtes sur France Culture.